à tous et bienvenue sur France Bleu Héros. C'est parti pour une nouvelle saison de votre émission foot 100% paillade qui est de retour tous les lundis et vendredis soirs de 18h à 19h. Et quoi de mieux qu'un record pour démarrer? Bonsoir Bertrand Connaître, ravi de vous retrouver.
Bonsoir François, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ils ont mis des paillettes dans la vie des supporters et pour une fois, les comptes sont bons Kevin. Enfin François, 7-0, du jamais vu dans l'histoire de Montpellier. Les pailladins irrésistibles hier à Brest et le coach intouchable au moins jusqu'au prochain match. Alors forcément, ça plane pour moi. Et non, parce que c'est sur la tête des Brestois qu'il est tombé le ciel hier. Ça plane pour moi, évidemment, pour vous, mais pour eux aussi. Benjamin Psaume, bonsoir.
Salut Bertrand, salut les amis.
L'excellent consultant football de 100% Paillade qui a re-signé.
Ouais, c'est Keda.
Pour une nouvelle saison.
Une année supplémentaire, en effet, dans l'effectif de 100% Paillade. Et bonsoir Jean-Bernard Stern, le poil à gratter de cette émission. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes tous bronzés. Ça fait plaisir de vous retrouver.
Exactement. Vous très heureux d'être avec vous. Très heureux de vous avoir en studio. Très heureux de redémarrer cette émission, cette saison, émission qui évolue, nouvelle voix, nouvelle rubrique, nouveau décor. Aussi, le studio a changé, vous le verrez, puisque l'émission est filmée, des extraits à suivre dans la soirée. Avant ça, on vous attend toujours plus nombreux, nombreuses, 04 67 58 6000. D'ici 19h, un peu de répit pour l'entraîneur, on en parle. La formule magique aussi, a-t-elle été trouvée en défense? On l'évoque. Que va devenir Sacco? Et où en est Maxime Estève? Question, là aussi, vous nous donnerez votre sentiment, votre réponse. Le mercato, on aura le temps d'en parler, d'en dire un mot, avec quelques infos. À suivre aussi la carte blanche. Nouveau rendez-vous après 18h30. C'est Pierrick, rédacteur au site Allez Paillade, qui va ouvrir le bal. Et puis enfin, Nicolas Cozza régale sur le terrain, mais en dehors également. Le défenseur vous offre son maillot porté hier, maillot d'un match historique. Il sera encadré. On vous le fait gagner ce soir dans 100% Paillade, avec aussi des places d'ici 19h pour la réception mercredi soir d'Ajaccio, 5e journée de Ligue 1. C'est Catherine Noroy qui est aux manettes ce soir.
Bravo. France Bleu Héros, 100% Paillade, Bertrand Queneut, Benjamin Psaume.
J'ai vu des grands signes dans le studio, je me suis demandé ce qui se passait. On a donc assisté à un match totalement irrationnel, plus grosse victoire de la Paillade en Ligue 1, le précédent record daté des années 80, déjà face à Brest à l'époque avec un succès 6-0, mais qui s'était produit à la Mosson. Là, on était en terre ennemie, la terre des Bretons. Alors comment expliquer ce qui s'est passé? Pogba a-t-il ou non marabouté le stade brestois? Votre explication, Benjamin Psaume.
Ben, c'est pas facile à expliquer. Faut trouver divers facteurs. Des fois, il y a des matchs qui sont irrationnels. On sait pas ce qui se passe. Tout sourit. Moi, je pense que les ingrédients qui ont été mis, c'est dans la semaine, il y a une prise de conscience du groupe. Le coach a dû élever la voix. Ça fait un moment, Bertrand, que j'explique que je trouve que le coach, la saison dernière aussi, a essayé différents ressorts. Et chaque fois qu'il essayait, il tentait de faire réagir son groupe, ça marchait pas. Et là, force est de constater que ça a marché. On l'a vu dès les premières minutes de jeu, sans même parler des buts. Mais dès les premières minutes de jeu, on voit une agressivité qu'on n'avait pas vue encore de cette saison, que ce soit contre Auxerre ou contre Troyes. Et donc, du coup, on voit des joueurs. Tu sais pas pourquoi, tu vas tenter, tu vas défensivement, tu récupères tous les ballons. On a été très, très agressif dès le début du match. Tu récupères plein de ballons et tu sais pas pourquoi. Chaque occasion que tu as, ça finit au fond et après, en face, t'as rien. En face, ils ont lâché complet et tu te retrouves à avoir un score historique que je mettrais, moi, honnêtement, sur le dos. Au profit du coach.
La prise de conscience donc et le coach qui a su faire réagir son groupe. Jean-Bernard Stern, avez-vous une autre explication que celle qui n'est pas inintéressante, hein, on peut pas dire ça.
Non, mais okay. Non, mais Benji a raison, parce que c'est vrai que Montpellier brûlait-il? On répondra peut-être à cette question. Il y a eu effectivement une prise de conscience des joueurs, mais moi je pense que peut-être que Olivier Dalloglio a enfin trouvé une sorte d'équipe type. Il y a eu l'apport de Julien, je crois qu'on en parlera donc pendant l'émission, mais il y a une espèce d'équipe type qui s'est dégagée et ça a donné des résultats. Donc je me dis que dans les prochains matchs, ça va être intéressant de savoir si cette équipe type là confirme, et il est intéressant de constater qu'il n'y avait pas TJ Savanier.
Écoutez petit bonhomme, écoutez.
Jean-Bernard Stern, parce que là, vous êtes en train de vous fourvoyer totalement, parce que vous êtes en train de nous parler d'équipe type sans Téchis à Vanier.
Ah ben oui.
Est-ce que vous avez pris un coup de menhir
également? Non, mais pas du tout. J'en avais déjà parlé la saison dernière. Je ne remets pas en cause les qualités de Téchis à Vanier, dont d'aucuns le voyaient déjà aux portes de l'équipe de France. Et rappelez-vous ce que je disais à ce sujet-là. Téchis à Vanier est un excellent joueur. Téchis à Vanier est un milieu de terrain qui pourrait évoluer dans tous les clubs français, vraisemblablement, mais je me demande si Savanier ne cannibalise pas cette équipe. Alors, inconsciemment, il a du talent, tous les ballons doivent passer par lui, c'est un meneur de jeu, il doit distribuer le jeu, mais peut-être que des fois, sur le terrain, il se fourvoie, il est à la fois attaquant, milieu de terrain, il joue au défenseur, peut-être que c'est pas son rôle et qu'il faut un petit peu le canaliser et que, sans lui, certains joueurs sont libérés et donnent pleine mesure de leur talent.
Alors ça, c'est un débat qu'on a en partie déjà eu, mais c'est pas inintéressant. Je sais que certains refusent qu'on puisse toucher à Téchis Savanier. Alors il s'agit pas de l'attaquer, il s'agit au contraire de le mettre en valeur. C'est un joueur essentiel à mes yeux, aux yeux de beaucoup. Impossible de l'enlever du 11 de départ, je veux même pas en entendre parler. Mais Benjamin, il y a une chose qui est vraie chez Téchis Savanier, c'est que, un, parce que il sait tout faire et parce que il veut tout faire, parfois peut-être se fatigue-t-il un peu Téchis Savanier. Donc ça, première constatation. Deuxième constatation, Téchis Savanier, il est comme un aimant. Il attire le ballon. Il attire les joueurs adverses, il attire aussi les siens. Et donc Téchis Savanier, peut-être que parfois, il monopolise un peu le jeu. C'est aussi ce qu'on demande à un meneur, mais peut-être parfois trop. Peut-être qu'inconsciemment, ses partenaires se reposent un peu trop sur lui. Alors il s'agit en effet pas de l'attaquer, il s'agit au contraire de dire combien il est précieux dans le dispositif d'une équipe, et en l'occurrence de celle d'Olivier Dalloglio, mais peut-être parfois un peu trop. Peut-être que l'équipe se rend un peu trop dépendante de Téchis Savanier.
Rappelez-vous Mollet l'année dernière, la saison dernière, qui était décriée, et quand il n'y avait pas Savanier, si tu veux, il exploitait vraiment tout son talent. Alors bon, là, le problème n'est pas le même.
Alors après, je peux mettre un premier carton jaune à JB ou pas?
Oui, bien sûr.
Première émission, je mets un petit carton jaune.
Et au deuxième, je sors du studio, d'accord.
Je ne me permettrai pas, mais t'étais pas loin, c'était orangé. Il était orangé celui-là.
Alors vas-y.
Déjà d'annoncer qu'on a une équipe type au MHSC après le match d'hier, déjà pour moi c'est...
Non, j'ai dit peut-être qu'il a trouvé un semblant d'équipe type. Mes propos.
Tu verras déjà que dans les trois matchs, une semaine à trois matchs, bien évidemment, ce sera pas le même 11 qui fera les trois matchs. Il va essayer. Alors ça a marché, ça a fonctionné hier, mais il est bien trop tôt pour dire que les joueurs qui ont joué hier, ils ont marqué des points, bien évidemment, à ses yeux. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire qu'on a un 11 titulaire, un 11 pour dans la tête de Dalloglio. Après, concernant TJ, c'est l'inconvénient des joueurs qui sont, voilà, on va dire, à l'échelle montpelliéraine, des stars de l'équipe.
Bien sûr.
On appelle ça les MVP. Le problème de TJ, c'est que dans un jour où il est bien, comme c'est l'MVP, il touche 100 ballons par match, mais il peut te faire gagner le match, comme contre 3, il te met un coup de patte et tout. Et le problème, quand t'as un joueur qui est au-dessus des autres et avec qui on essaye de jouer énormément, dans un jour où il est moins bien, il te plombe le jeu de l'équipe. Parce que c'est lui qui touche le plus de ballons, c'est lui, comme tu l'as dit Bertrand, qui attire tous les ballons. Donc ce qui est intéressant cette saison et qui est appréciable, c'est qu'autour de lui, on a pas mal de joueurs qui sont intéressants, et je pense à Kazri, on va en parler, mais Kazri est un petit peu dans son profil, et je pense qu'il va pouvoir essayer de soulager TJ dans l'aspect technique et la création de jeu. TJ, comme tu l'as dit, il va un peu partout, on le dit depuis la saison dernière, et là, il a Jordan Ferry qui est un super relanceur, et pour moi, il a plus besoin de venir bas,
voilà.
Il faut qu'il se concentre vraiment sur les 30-40 derniers mètres, moins d'efforts.
Sauf évidemment à ce qu'on le positionne en qualité de numéro 6 plutôt.
C'est ça, s'il est en 6. Alors moi, je pense que c'est mieux de le mettre en 10, parce qu'il a une telle qualité, et le plus dur, je le dis à chaque fois dans le foot, c'est de marquer des but, il est tellement fort dans ses frappes de balle que je pense qu'il faut que ce soit près du but. On l'a vu contre les stacks où il est allé une fois dans la surface adverse, il a mis lucarne. Et donc je pense que c'est ça. Mais après, l'avènement de Kazri, qui pour moi est dans le même poste, dans le même registre, je le vois pas aller sur un côté, va peut-être modifier aux yeux de Dalloglio son schéma aussi.
Dans le même registre que qui?
Que TJ. Pour moi, Wahbi Kazri, c'est numéro 10 en puissance. Ah, oui. On l'a vu hier, c'est un soutien d'Eli Wahi.
Numéro 10 en puissance, mais il l'est pas là.
Non, mais il est bien d'accord. 10, Wahbi Kazri au départ. Hein.
Au départ.
Oui, d'accord.
Hier, si tu regardes, il joue en soutien d'Eli Wahi. Il joue à 9,5, en 10 hier, si tu regardes.
Téchis Savanier attire les ballons, Jean-Bernard Stern s'attire des problèmes.
Oui.
Moi, je pense que l'arrivée.
Je pense qu'il faut le discipliner.
Je pense que l'arrivée de Christopher Julien a aussi joué un rôle. Ça va être mon explication, même si je partage certaines choses que vous avez dites il y a quelques instants. Mais moi, je pense aussi qu'il y a eu un effet Christopher
Julien sans doute cette semaine. Sur le terrain, on l'a vu hier, il a été pressé, on va en reparler, mais je pense qu'aussi en dehors et puis dans ce que ça amène aussi dans l'esprit de ses partenaires, il y a quelque chose qui se passe aussi quand un nouveau joueur arrive de ce standing, entre guillemets, même si, et là je mets de côté évidemment le fait qu'il n'avait pas joué depuis un an et demi, qui faisait douter ici et là, et c'est bien normal, mais voilà, c'est un joueur quand même de qualité, je suis pas en train de vous dire que c'est un top joueur mondial, mais c'est un joueur à l'échelle de Montpellier qui est de très grande qualité. Et je pense que ça a joué le fait pour un Nicolas Cozza de savoir qu'il a Christopher Julien à ses côtés, pour les autres partenaires également, pour ceux qui sont devant, savoir que derrière il y a peut-être une charnière qui enfin va fonctionner avec une grande tour de contrôle qui nous manquait. Voilà, je pense qu'il peut aussi y avoir un effet, on a aussi envie de briller hein, quand il y a un nouveau joueur qui arrive.
Il y avait un problème de défense aussi, c'est ça.
Exactement.
Donc ils ont colmaté quand même les brèches.
Et on va largement en parler de la défense. Vous êtes d'accord ?
Ouais, tout à fait.
Et ça me fait plaisir. Pas de carton jaune pour moi.
On met toutes les idées dans un panier et puis on a tout juste. C'est ça la complémentarité.
On enlèvera quelques-unes des vôtres.
D'accord. Au revoir, monsieur.
Bruno nous appelle de Montpellier. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Comment va, Bruno ?
Ça va. J'ai passé des bonnes vacances. Ah. Et, dimanche, j'étais sur Brest. Alors, j'ai profité pour voir le match.
Vous étiez dans le parkage ?
Vous passiez les vacances à Brest ?
Non. Non, j'ai de la famille sur Brest. Et comme j'avais dit à mon oncle, essaye de prévoir des places pour le match parce que je suis un fan supporter de Montpellier. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est prévu et on est parti en famille voir le match.
Et vous a mis bien ?
Je me suis bien régalé, mais après, comme je dis, il faut pas s'enflammer. Quoi. C'est le premier match qu'on gagne autant avec beaucoup de buts.
Vous avez mangé de l'andouillette ?
Voilà, non, c'est à 3, ça.
De Guéméné.
Ah, de Guéméné, d'accord.
Bruno, vous êtes un supporter confiant désormais. Comment vous expliquez, même si vous me dites, vous avez raison, c'est ce que nous a dit Christopher Julien hier, de ne pas s'emballer, mais comment vous expliquez-vous ? Quelle est votre explication à ce match irrationnel, Bruno ?
À Brest, ça nous réussit à chaque fois. L'année dernière, on avait fait un bon match. Là, il y avait la tête du coach, peut-être en jeu, comme le prochain match contre Ajaccio. Tout le monde s'est remis en question. La mayonnaise a pris. Il faut continuer sur ces bases-là. Mais comme je dis, restons humbles, restons sur les pieds sur terrain.
Oui, oui.
Mais c'est ce que je voulais souligner après, quand on en parlera.
Bien sûr.
C'est la beauté du foot, JB, ça, c'est tout le temps. Dans 48 heures, on peut se retrouver, si on fait 0-0, on est
bien sûr
contre Ajaccio. Tous nos problèmes, tous nos soucis vont revenir. Donc c'est ça la beauté du foot, là, c'est qu'on a trois matchs à une semaine. Et c'est pour ça que moi je disais, on en parlera, moi je disais que c'est après cette semaine qu'il faudra faire un premier bilan après ces trois matchs. Et là, on en met sept. Faut pas s'arrêter à ça parce que si contre Ajaccio on fait la même performance que contre Auxerre l'autre jour, on va tous retomber dans notre
mais c'est l'histoire du foot, ça. Regarde ce qui se passe au Paris Saint-Germain, par exemple. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas de louer cette équipe. Ils ont fait match nul au Parc des Princes et on remet déjà tout en cause. Mais c'est ça le football.
Et quand ils se font sortir en quart de finale comme chaque année.
Là, je te dis pas.
Petit tacle, là.
Redescendons de niveau, parlons de Montpellier.
Olivier Dalloglio sera-t-il un dieu en fin de semaine après le match contre Lille, ou sera-t-il un paria comme il était avant ce match à Brest? On va ouvrir le premier débat en effet de la soirée. Olivier Dalloglio a-t-il regagné du crédit ou s'est-il offert un simple répit? Votre avis, vous faites comme Bruno, cher supporter, 04 67 58 6000. Bruno, tiens, avant de vous libérer, vous pensez vous qu'il a, est-ce qu'à vos yeux il a regagné du crédit, Olivier Dalloglio? Est-ce que vous attendez pour répondre et confirmer, ou est-ce qu'il s'est offert pour vous un simple sursis, un simple répit?
Je pense qu'il s'est fait un sursis. Après, il y a Ajaccio qui arrive. Il faut pas tomber sur nos travers. C'est une équipe qui va aussi jouer le maintien comme nous. Mais méfiance. Et j'espère que, à la fin de la saison, il sera toujours avec nous parce que il mérite qu'on lui laisse sa chance.
Il mérite qu'on lui laisse sa chance. Benjamin Psaume, rapidement, mais on va y revenir. Vous allez développer ensuite. Est-ce que c'est sursis, répit, crédit? C'est quoi pour Olivier Dalloglio?
Ça lui donne du répit pour moi parce qu'il a été attaqué énormément ces derniers temps. Ça l'a touché, c'est sûr. Il est attentif à ça aussi. Et là, de voir que son groupe, c'est ce que je dis souvent, il n'y a rien de mieux pour un entraîneur de voir son groupe qui réagit à une semaine de travail où il a tapé du poing sur la table. Les joueurs savaient que c'était à Brest, son ancien club. Et là, il s'est rendu compte que son groupe a répondu parfaitement. Donc ça, c'est très, très encourageant. Alors, aux yeux du coach, mais peut-être aux yeux de la direction, aux yeux de Laurent Nicolin, Bruno Carotti et Michel.
François Nicolas.
Ils se disent que, le groupe n'a pas lâché le coach et surtout, ils répondent aux attentes du coach. coach. Donc ça, c'est très intéressant et ça a accordé pour moi un bon répit.
On va continuer d'en parler. Bruno, merci beaucoup de nous avoir appelé. Vous appelez quand vous le souhaitez, Bruno. Toute cette saison, évidemment, dans 100% Paillade. On embrasse votre famille du côté de Brest. Bruno, vous êtes toujours là parce que je vous entends plus. Je m'inquiète.
Oui, je suis toujours là et je voulais souhaiter un bon rétablissement à Dimitri Berthaud.
Eh ben, vous avez bien raison.
Il va nous manquer, quoi.
Ouais, j'allais parler de lui tout à l'heure, mais vous avez bien raison de le faire. Dimitri Berthaud qui s'est blessé lors d'un tennis ballon à l'entraînement, qui s'est fait très mal puisque sans doute rupture des ligaments croisés. C'est quasiment acté, mais il y avait encore quelques examens aujourd'hui qui étaient passés par Dimitri Berthaud, avec qui on a pu échanger et qui en effet a bien l'intention de se battre pour revenir. Dimitri Berthaud, on va parler des conséquences aussi de sa blessure, parce que forcément il y en a sportivement, lui qui était promis à plus ou moins court terme à la place de numéro 1, en tout cas en cas de départ de Jonas Omlin. Évidemment, les cartes sont rebattues et il va falloir réfléchir à comment faire sans Dimitri Berthaud, à qui on pense et qu'on embrasse ce soir. Bruno, merci beaucoup. On continue de parler d'Olivier Dalloglio dans un instant.
04 67 58 6000 pour intervenir dans 100% Paillade et vous allez pouvoir vous qualifier pour remporter le maillot de Nicolas Cozza avec l'odeur qui va avec, je confirme. 04 67 58 6000, c'est 100% Paillade jusqu'à 19h.
Une nouvelle fois, vous avez placé France Bleu Héros, première radio de proximité du département. Alors on vous dit un grand merci et on continue à vous proposer tout ce qui compte dans les rues. Rendez-vous chaque matin à 7h20 avec nos correspondants à 7, Béziers, Lunel et au plus près de chez vous. À 9h10 pour découvrir Bleu Méditerranée, notre nouvelle chronique consacrée au littoral. Ou tous les lundis et vendredis à 18h pour 100% Paillade, pour ne rien manquer de l'actu du MHSC. France Bleu Héros avec vous tous les jours pour une nouvelle saison 100% connectée à notre département.
20 secondes de trafic pour vous signaler qu'il y a du monde sur la 709 dans le sens de la descente entre Montpellier-Ouest et Saint-Jean-de-Védas. À Montpellier, ça coince au niveau du rond-point de la Vérune, sur l'avenue de la Liberté en direction du Nord et sur l'avenue des Moulins sur l'ouest de l'Hérault. Il n'y a rien à signaler à 18h22.
Le foot, c'est sérieux.
Je vous préviens, messieurs, que je suis arbitre fédéral.
Tous les jours, dès 18h, c'est 100% Paillade sur France Bleu Hérault.
Une petite pause, histoire de réfléchir aux différents arguments des uns et des autres. 100% Paillade revient. Oui, c'est Kylie Minogue. On est en train de faire un blind test autour de la table avec Benjamin Hamsom. Kylie Minogue tout de suite sur France Bleu Héros. Et c'est la suite ensuite de 100% Paillade. battu Out of My Head, Kylie Minogue sur France Bleu Héros à 18h26.
On ne plaisante pas avec le football.
La tactique, elle est simple. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux.
Tous les jours dès 18h, c'est 100% paillade sur France Bleu Héros.
Et ça, c'était le discours du coach hier avant le match. Et voilà ce qui s'est passé. Ils sont rentrés dans le chou de ces merdeux de...
Oh là là.
Ah oui, okay. On continue évidemment de parler de la victoire historique de Montpellier, 7-0 hier à Brest. Montpellier est donc passé en l'espace d'un déplacement d'une différence de but de moins 24 à plus 32 sur un match. C'est quand même très très fort. Olivier Dalloglio donc était très critiqué. C'est vrai que voilà, la paillade, c'est 4 victoires en 22 matchs avant cette quatrième journée. C'est 4 victoires en 2022, 15 défaites. C'était le pire bilan, le plus grand nombre de défaites en tout cas dans les 5 grands championnats européens, en comptant Watford et Everton également, qui étaient à 15. Donc c'est, voilà, c'est sûr que c'était un bilan qui était noir. Olivier Dalloglio avait voulu tourner la page cet été avec les recrues, avec un vestiaire remanié, avec une préparation estivale qui était censée, voilà, redonner un peu de baume au cœur. Alors évidemment, tout le monde s'est focalisé sur les résultats, puisque quand vous n'en avez pas pendant 6 mois, ben, forcément, vous les attendez sur des matchs de prépa, même si c'est pas le but, hein, des matchs de prépa. Mais voilà. Et puis ensuite, eh ben, la machine s'est regrippée face à Auxerre. On a tous craint, la catastrophe. Certains ont pensé, même avancé, qu'Olivier Dalloglio était plus que jamais menacé. Certains ont avancé qu'il serait limogé avant le match contre Brest. On va évidemment en parler. Juste, Olivier Dalloglio, hier, a pas voulu souffler sur les braises, hein, après avoir déjà affirmé avant le match dans le Télégramme qu'il ferait fermer des bouches. C'était son expression. Olivier Dalloglio a tout de même, hier, à l'issue du match et de la victoire, remercié ses détracteurs en conférence de presse. Écoutez.
Nous seuls. On sait ce qui se passe. Il n'y a pas ce que l'on croit du tout, mais du tout. Tout ce qui a été plus ou moins inventé, ben, ça a été inventé. Aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de ça. Après, nous, on a toujours tracé la même voie, avec des objectifs, du travail, des plans de jeu. Alors, des fois, ça ne fonctionnait pas, parce qu'il faut faire des réajustements. Il y a des garçons qui sont moins bien, il y a des garçons qui ont besoin de plus de temps. On a des jeunes joueurs, on a des cadres qui commencent un petit peu à se révéler. Voilà, donc j'ai senti qu'on avait besoin de temps, et donc on a certainement besoin de sérénité aussi, c'est clair. Mais pendant qu'on parlait sur moi, c'est bien, les joueurs ont le temps de bosser, c'est très bien. C'est pour ça que je dis merci.
Voilà la réponse d'Olivier Dalloglio. Merci aux détracteurs. C'est vrai que moi, je le dis très franchement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas du tout commenté quand il a été question. Voilà, chez certains, selon certains, d'une éviction d'Olivier Dalloglio avant le match contre Brest.
Et les noms qui circulaient.
Il y a des noms qui ont
été graves.
Moi, j'y croyais pas du tout pour une raison simple, c'est qu'on est allé, alors chacun ses infos, mais nous, on est allé au cœur du réacteur. Et voilà, l'idée n'était pas de limoger Olivier Dalloglio après 4 journées ou après 3 journées. Parce qu'on était à 3 à ce moment-là.
Bien d'accord.
Et surtout avant une semaine à 3 matchs.
Non, il en était pas question. Alors, ça veut pas dire qu'Olivier Dalloglio fait l'unanimité dans le club. Il ne la fait pas. Aujourd'hui, Olivier Dalloglio, comme peut-être d'autres, hein, je ne suis pas certain que Michel Derzakarian ait toujours fait l'unanimité, notamment sur la fin, par exemple à Montpellier. Mais Olivier Dalloglio, clairement, avec les résultats qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là, ne la faisait pas ou ne la faisait plus. Mais il n'était pour autant pas question, à la tête de la fusée, de limoger Olivier Dalloglio avant le match contre Brest. D'autant, je vais vous dire les choses, que Olivier Dalloglio et Laurent Nicolin l'a confirmé, ils sont allés chercher Christopher Julien. On va parler de lui dans un instant, mais Christopher Julien, est-ce que vous imaginez une seconde que Laurent Nicolin nous dit on s'est mis d'accord avec Olivier Dalloglio pour ne pas aller chercher de 6, finalement, la fameuse sentinelle qui était ciblée dans un premier temps, et on a réorienté, on est allé chercher un défenseur central, on est allé chercher un garçon qu'Olivier Dalloglio a validé, parce que évidemment la relation est très forte entre eux, ils sont montés en Ligue 1 ensemble en 2016. Est-ce que vous croyez franchement qu'on limoge Olivier Dalloglio avant même le premier match d'un joueur qu'il vient de valider?
Évidemment,
parce que la direction, elle a dit quoi? Elle a dit on est attentif, évidemment, ils étaient attentifs à la situation, il ne s'agissait pas de donner un blanc saint Olivier Dalloglio et dire vas-y fais 10 matchs, perds les 10 et on sera 20e avec 0 points. Non, il n'était pas question de ça. Pour autant, le discours était le suivant. Il n'y avait pas d'ultimatum de poser véritablement, mais évidemment qu'au sein de la direction, on se prépare à toutes les éventualités, aussi celle de perdre les 3 matchs dans la semaine, ce qu'on est en train de vivre et qui était programmé. Et donc évidemment qu'on commence à prendre des renseignements. Évidemment aussi et surtout que des recrutements, enfin, des agents appellent pour dire moi j'ai tel entraîneur, j'ai tel coach qui est libre, etc. Mais la direction paillardine ne s'est pas affolée pendant ces dernières heures. Certains peut-être au club se sont affolés, mais la direction ne s'est pas affolée. En tout cas, c'est les infos qu'on a. Et il a été question en fait de dire à Olivier Dalloglio, bah voilà,
tu as ton joueur, on te donne le plus de clés possible. On a décidé qu'on ferait un défenseur central plutôt qu'un 6. Le voici, il s'appelle Christopher Julien, tu l'as validé. Maintenant, si tu n'y arrives pas avec Christopher Julien, avec le mercato qu'on a fait cet été, avec la page qui a été tournée, ben bien sûr qu'on prendra une décision si il y a 0 ou 3 points sur les 9
à venir. Mais s'il y a le feu, bien sûr.
Évidemment.
Mais c'est la vie d'un club.
Qu'il finirait par être limogé. Mais avant le match contre Brest, il n'en a pas été question. Qu'est-ce que vous dites de la situation, messieurs?
Alors moi, je trouve que d'abord, après 3 matchs, il était, comme tu l'as dit, illusoire de penser que les dirigeants allaient limoger Olivier Dalleglio. S'ils avaient dû le faire, il l'aurait fait à l'intersaison. Parce qu'il y avait des raisons de le faire à la fin du championnat. Il y avait des raisons de le faire à la fin du championnat. Donc, ils ne l'ont pas fait. Laissons Olivier Dalloglio travailler. Moi, je pense que cet entraîneur est venu à Montpellier pour travailler sur le long terme, pour commencer à préparer le changement de stade. Alors, évidemment, si à la trêve et si avant la Coupe du Monde, il n'y a pas de résultat, peut-être qu'il sera remis en cause. Mais je demande à voir, parce que jusqu'à preuve du contraire, Montpellier, après 4 journées, est dans les clous, joue son championnat avec des équipes comme Toulouse, Clermont, Lille et Nantes. Il y a eu 7-0. Tu demandes des sursis ou crédits, moi je te dis Dalloglio, c'est plus crédit que sursis. C'est mon avis.
Ouais. Benjamin Psaume, après, moi je suis pas certain qu'on irait jusqu'à la Coupe du Monde. Je pense que le bilan sera fait avant ça, de la part de Laurent Nicolin et de la direction. C'est aujourd'hui, il y a 3 matchs.
Il faudrait qu'il y ait un cataclysme, voilà, Bertrand.
En cas d'accident industriel, mais sans accident industriel.
Mais bien entendu.
S'ils ont l'impression que l'équipe se redresse petit à petit, et même si c'est pas le timing des supporters ou le timing des observateurs, s'ils ont l'impression que l'équipe se redresse et ils voient le quotidien, Olivier Dalloglio.
Et eux le voient le quotidien. Exactement. À l'entraînement.
Mais c'est ce qu'il dit, c'est ça qui est intéressant dans sa déclat et que j'aime bien, c'est que lui, voilà, je le dis souvent parce que j'étais de l'autre côté, il se passe des choses en interne et après quand on entend, et lui il entend tout ce qui a été dit, il le sait, ça doit le toucher aussi, et il entend tout ce qui est dit, il voit les noms qui circulent et compagnie, et lui sait qu'en interne il n'y a aucun problème avec sa direction, qu'il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est ça qui est toujours l'autre côté, l'autre face. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il est toujours resté droit dans ses bottes. Exactement. Il parle toujours, à chaque fois qu'on lui parle d'ailleurs autour, il reste toujours focalisé, focus sur son groupe et son équipe.
Bon, cette victoire en tout cas n'a pas tout effacé, c'est une certitude.
Non,
on en demandera beaucoup plus évidemment pour... Oui. On demandera confirmation, on demandera beaucoup plus qu'un 7-0. Oui. Vous savez, il faut mieux gagner 7 fois un 0 ou 8 fois 7-0.
C'est spécial celle-là. Mais dimanche à 17h, le match à 13h, à 17h, là on pourra commencer à faire,
on va faire des petits checkpoints.
Et voir vraiment si ce match de Brest est un truc irrationnel qui est, voilà, que c'est, ou si vraiment ça fait des déclic à tous ces joueurs. Parce que moi j'espère... Le but de ce match, c'est le 7-0, je m'en fous.
Que la saison soit lancée.
Que ça a fait un déclic, parce qu'on a vu tous nos joueurs à un niveau très très intéressant, presque à 100% de leur niveau. Et si ça arrive à décliquer dans leur tête, là par contre, ça va être...
Pierre nous appelle de Clermont-Léraud. Bonsoir Pierre.
Ah, voilà Pierre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, on vous écoute.
Voilà, mais moi je voulais parler déjà d'une... Bon, l'entraîneur, quand il est venu à Montpellier l'année dernière, on était contents, parce qu'en première partie du championnat, il nous a monté au milieu du tableau. Un peu plus haut. Donc, c'est vrai qu'on a critiqué tout ça, et à Montpellier, c'est vrai qu'on n'allait pas y aller, on est comme ça, on aime critiquer, on met un peu la pression pour que ça bouge. Voilà. Après, quand on a annoncé tous les entraîneurs qui venaient et tout ça, moi, personnellement, je pense que c'est une pression pour le coach, pour qu'il se bouge un peu plus.
Bon, ce sont les supporters qui ont annoncé les noms, surtout.
Oui. Mais après, je pense, pour, comme vous avez dit après, qu'il est venu pour travailler sur le long terme.
Oui.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Bien sûr.
C'est ce qui avait été annoncé au départ. Mais pour moi, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas, ou peut-être que la causerie dans le vestiaire, il est trop tendre. Est-ce que c'est certains joueurs qui se sont pris un peu la tête, lui ont pris le dessus. Notamment, je vois que sans Savanier, encore une fois, on a gagné.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que le jeu a été plus rapide sans Savanier qu'avec Savanier.
Ouais. Intéressant ce que vous dites.
Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça. Après, c'est vrai qu'on a de très bons jeunes. Mais donnons la chance aux jeunes. Pourquoi aller payer des gros salaires, tout ça? Donc voilà, moi ça c'est sur entraîneur.
Ouais, puis je pense qu'il y a du vrai sur ce que vous dites, Pierre, sur notamment son caractère. Olivier Dalloglio l'avait d'ailleurs indiqué en fin de saison dernière. Il avait fait son mea culpa, un petit mea culpa, en disant peut-être en effet que ça n'avait pas été ses mots, mais je traduis, je grossis le trait, mais peut-être que j'ai pas assez de poigne et ça a été changé cet été a priori avec la discipline revenue au cœur de son projet, de son discours. Laurent Nicolin qui s'est rapproché de lui aussi, ce qu'il n'avait pas besoin de faire avec Michel Derzakarian, qui avait, on va dire, une autorité naturelle sur le groupe. Olivier Dalloglio
Rio peut-être moins. Et c'est vrai que
du coup, il est plus dans la communication.
En tout cas, voilà. En tout cas, ce qu'on voit hier, quand on voit ce qui s'est passé à Brest à 15h, en aucun cas ces joueurs l'ont lâché ou quoi que ce soit. J'ai vu des joueurs vraiment qui voulaient se battre, à la fois pour l'équipe, mais aussi pour leur coach. Oui. Et ils l'ont dit en cours d'après match aussi.
Pierre, allez-y, continuez.
Voilà, et c'est vrai que les joueurs, je pense qu'ils ont été derrière coach. Ouais. Et franchement, hier, on a vu une équipe. Moi, j'étais à la plage, je l'ai écouté de la plage, j'ai écouté Cerceau, hein. Excusez-moi.
Mais, pas faux pour tout le monde. Hein.
Voilà, mais franchement, j'ai pas. De Montpellier, ça n'a pas été les mêmes que Auxerre. Je suis abonné, hein, Montpellier. Mm-hmm. Voilà. Et après, rappelez-vous, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit l'année dernière, hein, par rapport à Germain. Je vous avais dit, Valère n'a pas fait la préparation avec Montpellier.
Exact.
Et vous verrez que si l'année prochaine, il fait la préparation à complète au Montpellier, il va nous faire une saison du tonnerre.
Oui, mais pareil, en tant que remplaçant, quand même. Hein.
Voilà, mais pareil, mais à confirmer, ça demande confirmation. On va pas non plus s'emballer sur deux buts.
Mais bon, vu la préparation, je pense qu'il s'est donné à fond, vu les critiques qu'il avait. Et c'est un joueur qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a jamais rien fait. Et franchement, moi, je pense que... ça va être un bon joker de
Ah voilà, vous avez dit le mot, oui.
Voilà. Après, s'il continue à rentrer et à marquer, au bout d'un moment, il ne va plus être joker. Il va
commencer à jouer. Si tu as Wahi qui continue à marquer tu ne vas pas enlever Wahi pour mettre Germain.
C'est le gros point positif de l'après-midi d'hier aussi.
Il vaut mieux laisser Wahi d'entrée et après...
Oui, bien sûr. D'autant que Germain a la mentalité également pour être le numéro 2. Alors, je dis pas qu'il accepte cette situation, mais il a cette mentalité.
Il fera aucune vague.
Proportion gardée comme Giroud en équipe de France, hein. Exactement. Ils acceptent leur situation.
Messieurs, on va prendre également Maxime. Pierre, merci beaucoup.
De rien bonne continuation.
Merci. Merci.
Merci Pierre, à bientôt.
Vous appelez quand vous le souhaitez, Pierre. Voilà, à très bientôt. Maxime de Pignan également qui nous appelle. Bonsoir, Maxime.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
On prendra Loïc aussi, hein, je crois, dans un instant.
Oui, il y a du monde.
Le Mercato, on va ouvrir une page Mercato, on va faire le jeu également. Maxime de Pignan, allez-y, Maxime.
Alors, d'abord, je voulais parler, moi aussi, en termes de l'entraîneur. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que moi, j'aurais au moins attendu jusqu'à Lille avant de tirer des conclusions. Parce que je ne sais pas réfléchir à la saison passée, même si forcément, on a tout dans le viseur.
Hein, pas mal.
Mais si on a pris un nouvel entraîneur et qu'on serait là, on se dirait, là, on a fait quand même un bon début de saison. Sachant que contre Auxerre, on a perdu. Mais je ne sais pas comment on la perd, ça.
Voilà. Ouais, c'est clair.
Oui, c'est pas mal ce que dit
il a raison.
Auditeur. Après, parce qu'effectivement, on se réfère toujours à la saison d'avant. Alors bien sûr, c'était le même entraîneur, mais il n'y a pas les mêmes joueurs, il n'y a pas la même préparation. Moi, c'est comme le débat qu'on a eu sur les matchs amicaux, on a perdu tous les matchs amicaux, mais Dalloglio, il a raison quand il dit « mais ce ne sont que des matchs amicaux ». Jugeons-le sur la première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée. Vous avez raison. Voilà, la saison passée, elle est passée, c'est tout.
Maxime.
Oui, bon, après, voilà, faut pas non plus oublier que c'est normal qu'il y ait une liste qui se fasse derrière, notamment au niveau des supporters, on a demandé ça. Mais c'est parce qu'on se pose des questions, parce qu'on aime notre club et qu'on veut pas non plus finir en D2, enfin, en Ligue 2.
Ouais.
Mais bon, je pense qu'on peut encore laisser la chance. Lui aussi, il faut qu'il soit malléable et qu'il sache un petit peu aussi se reprendre. Parce que bon, c'est pas du Zarzac en termes de management.
Et non.
C'est de la poêle. Donc je pense qu'il y a besoin d'aide aussi, parce que cette saison, il a eu avec Laurent Nicolin, qui n'est pas la saison dernière. Je pense qu'il y a un groupe qui s'est formé, peut-être des choses. Il y a des nouveaux joueurs, ça c'est sûr. Après, on parlait que TJ pouvait phagocyter un peu le jeu, tout ça, oui. Mais je pense que c'est pas vraiment le face à Brest, etc. Je pense que c'est pas le cœur du problème, parce qu'on sera toujours meilleur avec que sans.
Bien sûr.
C'est pas ce que j'ai vu. Là, c'est vraiment une équipe qui est revenue avec l'esprit paillade et qui a su. Là, quand je vois toutes les réactions, ils sont tous hyper loin les uns pour les autres. Ils jouent pour les autres. C'est vraiment un truc qui m'a fait plaisir de voir. Cette victoire.
Moi, je reste persuadé que c'est voilà, qu'il y a un déclic qui s'est produit hier. J'attends de voir contre Ajaccio, mais j'en suis persuadé.
C'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vu contre Auxerre quand même. Tu te rends compte qu'en une semaine, on voit une différence comme ça d'attitude, de comportement. Ça s'est joué à Grammont dans la semaine, tout ça, dans les discussions, dans les entraînements. Où hier, il nous expliquait qu'ils avaient fait une super semaine et tout. Mais quand je vois contre Auxerre, contre une équipe que j'ai trouvée très très faible, surtout en première mi-temps, où on doit finir à 3-4-0 si on appuie sur le champignon, on l'a pas fait. Et là, on se retrouve à Brest, où normalement, c'est censé être plus dur. Et là, on a joué comme qu'on aurait dû. On aurait dû jouer comme ça contre Auxerre, on aurait mis le même score, hein, honnêtement.
Et qui nous dit qu'il n'y a pas eu une mise au point de la part de Laurent Nicolin, peut-être de Michel Mézi, de Bruno Carotti? Il y a eu une mise au point auprès des joueurs. On les a mis face à leurs responsabilités, parce que c'est bien beau de charger l'entraîneur. C'est le plus facile, on le sait. Mais à un moment donné, la responsabilité, ce sont ceux qui sont sur le terrain. S'ils n'appliquent pas les consignes, ou s'ils les appliquent, mais très mal, parce que techniquement, ils sont peut-être limités. Donc, il faut leur dire, eh oh, basta, maintenant vous jouez.
Après ça, j'ai déjà vécu ce qui est un coach, il lit de plusieurs manières. Et là, il se dit, c'est des enfoirés mes joueurs quand même, parce que quand leur rentre un peu dedans, ils me font un match comme ça où ils se sont battus de partout, et il y a une semaine ils l'ont pas fait, donc ça veut dire que quand ils veulent, ils peuvent me le faire, et son objectif va être de toute la saison, de les conserver dans cet état d'esprit.
Bon, dans un instant, on va parler mercato également avec Loïc. Maxime, je vous garde si vous avez envie de réagir également sur le mercato. J'ai un cadeau d'abord à faire gagner, vous le savez. Bon,
la chemise
de généreux. C'est Nicolas Cozza, surtout, qui régale ce soir. Le défenseur buteur nous a donné son maillot, donc j'ai hésité à le garder, très franchement. Mais ma direction m'a obligé à l'offrir à l'un d'entre vous. On va en sélectionner deux qui s'affronteront vendredi soir pour tenter de le remporter. Pour ça, vous répondez tout de suite à la question suivante au 04 67 58 6000. Quelle anecdote Joris Chautard nous a-t-il raconté la saison passée à propos de Nicolas Cozza dans 100% Payade ? Est-ce que il nous a raconté que Pedro Mendes avait fait tomber sa bouteille de parfum sur son pied exprès pour le blesser avant un match? Est-ce qu'il s'est, Nicolas Cozza, cassé une dent en mangeant un crouton de pain lors d'une mise au vert à table? Ou est-ce qu'il a été élu, Nicolas Cozza, Mister Camping Municipal du Pont-Vieux près du Vigan en 2013? Voilà, laquelle de ces anecdotes est vraie concernant Nicolas Cozza?
Ce qui est fou, c'est qu'il y en a une de
vous appelez 04 67 58 6000 et vous serez sélectionné. Il y en aura deux pour vendredi soir. Vous appelez Elsa, le studio est en ébullition et le standard est en train d'exploser. On va prendre, Pierrick, la carte blanche, nouvelle rubrique dans un instant également 100% Payade. On garde Maxime et Loïc, on parlera mercato aussi.
100% Payade jusqu'à 19h sur France Bleu Héros.
France Bleu aime le cinéma.
Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre.
Tony vit seul.
Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça?
Mais décide un jour de corriger les erreurs du passé.
Je sais même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse. Enfin, c'est ridicule, je sais pas danser.
Rumba la vie, un film de et avec Franck Dubosc.
Tu vas apprendre tout ça, prends. Juste toi. Et moi.
Rumba la vie, au cinéma le 24 août. Plus d'infos sur francebleu.fr.
18h42, rapide coup d'œil sur vos conditions de circulation, fluide sur Béziers, sur les autoroutes, ça a été compliqué aujourd'hui, ça va bien mieux sur la 9 et la 750, sur Montpellier, quelques difficultés encore au niveau du rond-point de la Vérune, de l'avenue de la Liberté. Côté météo, des averses annoncées pour ce soir, elles seront orageuses dans la moyenne vallée de l'Hérault et ses environs, ainsi que sur l'ouest du département. Pour demain, le ciel sera variable tout au long de la journée, le temps va rester sec, quelques rares averses seront prévues dans l'extrême est du département, plutôt en début d'après-midi. Les températures, 27 degrés au plus chaud demain au Kellari à 7, 29 à Montpellier, Agde, Pesnas et La Salvetat, 30 à Béziers, Saint-Chinian, Bédarieux, Clermont-l'Hérault, Gignac, Lunel et Ganges. 100% Payade revient dans 3 minutes, vous allez remporter évidemment la sélection, votre ticket pour la sélection, pour obtenir le fameux maillot de Nicolas Cozza. C'est juste après Jennifer avec Sauf qui aime sur France Bleu Héros. Belle soirée.
Sur une balançoire, nos deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est...
Le nouveau Jennifer sur France Bleu Héros, sauf qui aime.
France Bleu Héros, 100% paillade, Bertrand Queneut, Benjamin Psaume.
On fera le bilan du mercato vendredi soir, messieurs, une fois le marché refermé, hein, c'est jeudi soir, ça a été décalé. Ce qu'on peut déjà vous dire ce soir, nos infos, c'est qu'il est théoriquement terminé ce mercato héroleté. Il faudrait un départ pour éventuellement une arrivée concernant les joueurs de champ, mais pour le moment, aucune offre officielle sur le bureau de la direction. Ça ne se bouscule pas pour acheter les joueurs héroletés pour l'instant. Il y a eu des touches dans tous les sens, on en a parlé, mais vous savez ce que c'est le mercato, hein, des touches, des ouais. possibilités, mais voilà, encore faut-il que ça se concrétise. Ça, c'est pour les joueurs de champ. Pour le moment, donc, mercato terminé à Montpellier, si il n'y a pas de départ d'ici jeudi soir, mais il faudrait des très grosses propositions pour laisser filer un joueur à deux jours de la clôture, évidemment. Donc, pour le moment, voilà, la direction Payadine estime que le mercato est théoriquement terminé. Ça, c'est pour les joueurs de champ. En revanche, il y a une réflexion, évidemment, en cours autour des gardiens de but. Vous savez que Dimitri Berthaud, on en a parlé tout à l'heure, s'est sérieusement blessé au genou, rupture des ligaments croisés, a priori. Je mets encore un tout petit bémol sur cette info, tant qu'elle n'est pas officielle et que les résultats des examens sont pas tombés. On pense évidemment très fort à lui. Alors, deux possibilités à l'étude aujourd'hui de la part de la direction. Recruter un numéro 2 expérimenté au cas où Jonas Somlin se pèterait dans la saison, ça peut arriver. Ouais. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on fait monter Carvalho et on le met numéro 1 et on a... c'est compliqué quand même comme affaire. Donc la direction se dit, est-ce qu'on recrute un numéro 2 qui est un numéro 1 bis, entre guillemets, c'est-à-dire un joueur expérimenté qui peut tenir
comme l'était Berthaud,
à 4
quoi.
Descentes, etc., comme l'était Berthaud, qui pouvait prendre la place de numéro 1, ou bien, en effet, on laisse Carvalho faire le job.
C'est un petit risque.
Et dans ces cas-là, Carvalho numéro 2, et on fait monter un garçon comme Djemoui Malek en numéro 3, gardien du centre de formation. On fait tourner les gardiens du centre de formation. On a Jonas Somlin en 1, Carvalho en 2, et les gardiens du centre en... voilà.
C'est un casse-tête, parce que ça se bouscule pas.
Il y a une vraie discussion en ce moment qui va démarrer, qui va être accentuée dans les prochaines heures concernant ce dossier. Mais la paillade donc n'exclut pas de faire venir un gardien numéro 2 expérimenté derrière Jonas Somlin qui puisse tenir la baraque en cas
de
pépin avec le Suisse qui ne partira pas. C'est désormais une certitude. Pas d'arrivée prévue donc. La paillade a laissé tomber aussi l'idée de recruter un 6 qui avait été envisagé. C'est sur le défenseur Christopher Julien qu'elle a finalement jeté son dévolu. Premier match hier soir, son 100e en Ligue 1 à Christopher Julien. Il était associé à Kotza dans l'axe, ça a donné satisfaction. Benjamin, juste rapidement, on est d'accord que cette charnière, a priori, pour le moment, hein, elle a pas pris de but, c'est la première fois depuis 9 journées, on imagine qu'elle sera reconduite tant que ça fonctionne.
Mais il m'a surpris parce que ça fait plus d'un an et demi qu'il a pas joué, il a été très très bon, il a été bien physiquement, même s'il a fini avec des crampes à la fin, et c'est vrai que là on a enfin un droitier, alors ça fait un jour à Pedro, j'espère qu'il reviendra, mais on a enfin un droitier depuis le temps qu'on le demande à la charnière centrale, et c'est vrai qu'avec Nico Kotza, ça s'est passé super bien. Quid de Mamadou, on va voir s'il peut revenir ou pas à son niveau. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette charnière-là a plu à tout le monde.
Mamadou Sakho, il est quand même relégué aujourd'hui. J'ai quand même le sentiment qu'il est relégué.
C'est tôt pour le dire. C'est tôt.
Oui, mais enfin, on le savait un
relégué,
peu déjà.
Relégué, je m'as dit...
Non. Moi, je pense
évacué,
que...
Après, on va voir vite, hein, parce que il peut pas, je pense que Christopher Julien, il va pas le mettre contre Ajaccio et Lille, parce qu'il a pas joué depuis un an et demi, il peut pas lui faire 3 matchs en une semaine, il vient d'arriver il y a quelques jours.
Mais enfin, donc, il peut le faire jouer contre Ajaccio quand même.
Oui. Après, mais Sakho, on va voir qui l'associe après.
On pourra en débattre de Sakho, mais Sakho, moi, je critique pas le
bien sûr,
bonhomme, il fait ce qu'il veut à droite à gauche et il y a pas de problème, je critique pas la vie des gens jamais. En revanche, le sportif, moi je pense qu'il faut pas l'enterrer parce qu'il faut jamais enterrer un joueur avec une telle mentalité, une telle carrière, un tel parcours, il est capable de revenir, mais j'ai quand même le sentiment, en plus je suis un peu déçu qu'il ait quand même pas joué les matchs contre Paris, vous le savez, messieurs, je le dis, je peux le dire aussi au micro, j'ai le sentiment qu'il s'est pas senti d'aller jouer, j'espère me tromper, mais Mbappé, Messi et Neymar et pour moi c'est un petit peu décevant, voilà. Ouais. Un joueur de cette stature, je trouve que Sakho, je sais pas s'il est très s'il s'est bien mis dans le moule de la paillade. Je pose la question, j'en suis pas
certain. Mais il fait partie de ces joueurs qui arrivent à un âge maintenant, bon, il a de l'expérience, mais qui arrivent à un âge, et j'en sais ce que c'est, bien sûr, merci Bertrand de me le rappeler.
Continuez parce que vous allez oublier le
il est peut-être sur le déclin mais naturel, c'est-à-dire qu'il a peut-être moins de réflexes, il a toujours le métier mais il court moins vite, c'est la vie, ça, c'est comme ça.
J'en vois les petits bémols, rappelez-vous saison dernière. début, il était pas bien, il était pas, non, il était pas pris, il était pas bien, il est monté en puissance, on l'a encensé tous.
Oui, mais
est-ce que cette saison, il va pas
Julien,
il y a du monde, mais est-ce que cette saison, il va pas nous faire la même et monter en puissance, et peut-être qu'en deuxième partie de saison, c'est
oui, mais t'as une concurrence que tu n'avais pas la saison dernière.
Moi, j'ai le sentiment.
Parce que n'oublions pas Esteve, n'oublions pas Mendez, et d'ailleurs,
j'ai le sentiment que Mamadou Sakho, sur les 6 premiers mois à la Paillade, a rappelé à tout le monde le joueur qu'il avait été, et j'ai le sentiment qu'en ce moment, il est en train de rappeler à tout le monde le joueur qu'il n'est plus.
Ah non, mais il est de mon avis, chaud, finalement. Bon, ouais. Mais il a mieux dit, parce que c'est un homme de radio,
qualité,
tu comprends.
Tu vois, il y a une qualité.
Il a, voilà, là, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé.
C'est un peu près, quand même.
Évidemment, on grossit le trait. J'espère me tromper. J'espère qu'on peut compter sur Mamadou
Moi,
Sakho.
Et, trop tôt
et, je, et j'ai encore dit tout à l'heure, il ne faut pas enterrer les joueurs qui sont des joueurs.
Mais c'est pas notre but.
Des animaux d'une espèce particulière. Ce sont des garçons avec un parcours très particulier qui savent qu'il, dans la vie, il faut cravacher. Voilà, son parcours parle pour lui. Donc, Mamadou Sakho, je ne l'enterre pas. Mais j'émets des réserves.
Et n'oublie pas l'importance.
Nous sommes deux, Bertrand.
N'oublie pas l'importance, même s'il est moins performant, l'importance que ce joueur a dans un vestiaire.
Et bien sûr. Pas, et d'ailleurs, je trouve que Christopher Julien a aussi de l'importance. En peu de temps, je crois qu'il a une aura assez intéressante.
Ouais, parce qu'il a l'expérience et on l'a vu hier. Il n'hésite pas. Il a recadré Jordan Ferry, en disant monte et tout. Il s'est vite acclimaté et ça va être un taulier.
Hein, et Maxime Esteve, dans tout ça, messieurs, vous allez me dire, bien sûr que vous voulez qu'on parle de Maxime Esteve. Bon, alors, il n'y a pas de problème avec Maxime Esteve, comme j'ai pu lire qu'il y avait eu un accrochage avec Dalloglio, les conneries qu'on a pu lire récemment, je vous le dis très franchement, il n'y a rien eu. Maxime Esteve n'a aucun problème avec son entraîneur. Maxime Esteve est un garçon discipliné qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui ne bronche pas et qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre. Maxime Esteve, vous avez tous suivi son parcours. Alors le club aujourd'hui a fermé la porte en mettant la barre très haut, un départ cet été. Il y avait des possibilités, c'est l'un des rares joueurs pour lesquels il y avait une vraie possibilité si on avait engagé la discussion, notamment avec l'Udinese, de le faire partir. Sans doute autour de 7-8 millions d'euros. Bon, voilà, c'est sans
révélation
doute le chiffre auquel
dernière,
on aurait pu monter. Révélation de la saison passée. 15 millions minimum, a dit Montpellier, pour fermer la porte. Mais la Paillade voit les choses d'un autre œil que. Parce qu'on pourrait se dire, on peut s'étonner de voir un talent pareil à ce prix-là sur le banc. Moi, je suis le premier étonné. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On met un garçon à qui on dit c'est 15 millions si tu veux partir sur le banc. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas normalement. Mais la Paillade voit les choses d'un autre œil. Le coach aussi. Montpellier croit très, très fort. En lui, on a là aussi, on a interrogé la direction ces dernières heures. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Maxime Esteve? Mais les choses, elles sont très claires. Montpellier veut compter sur un banc plus fourni dans ce secteur, donc conserver ces garçons et ces jeunes talents, les faire progresser au fil du temps. Montpellier estime aussi que les derniers mois et la prépa ont été un peu plus durs pour Maxime Esteve et que donc il faut digérer et que Maxime Esteve va être va revenir dans la concurrence. Il n'y a pas de problème, Maxime Esteve. Voilà ce qui est dit du côté de Montpellier. Mais forcément, nous, on s'est interrogé en voyant un garçon qui fait la première partie de saison, qui fait la saison dernière, qui ensuite,
se blesse et revient
un peu plus lentement. Mais c'est normal, il est tout jeune, Maxime Esteve.
Il revient quand même.
Mais voilà, moi je crois très fort en Maxime Esteve. Montpellier a l'air de croire en lui, il n'y a pas de problème, on nous dit. Et moi j'attends de voir désormais que Maxime Esteve revienne dans la rotation.
Je pense qu'il va y être dans la rotation dans la semaine. Moi je pense qu'il va démarrer un des deux matchs. Et après, moi j'y crois, ils ont raison. On se plaint tout le temps, Bertrand, rapidement, qu'on a un banc et des postes qui sont moins bien. Mais c'est bien d'avoir au même poste deux très bons joueurs, ça peut arriver. Ça veut pas dire qu'on le vendra pas plus tard.
Messieurs, parmi les nouveautés de la rentrée, on a perdu beaucoup de temps, ça devait passer un peu plus rapidement dans l'émission. La carte blanche, c'est la carte blanche désormais, 2 minutes offertes à un supporter. Tous les lundis, tous les vendredis, liberté totale pour pousser un coup de gueule ou pour déclarer sa flamme. Une musique en fonction, si c'est un coup de cœur ou si c'est un coup de gueule, on réagit et on débat juste après. Et c'est Pierrick qui va ce soir ouvrir le bal. Bonsoir Pierrick. Il s'est endormi.
Il y a un petit décalage avec Pierrick. Bonsoir. Voilà pour l'explication.
Bonsoir. Pierrick est rédacteur à Allez Paillade, le site internet, qui est aussi supporter de la première heure de Montpellier. Pierrick, tu débordes d'amour ce soir, je crois.
Tout à fait. Alors, donc, j'ai l'immense honneur de démarrer cette rubrique. Et j'y vais. Du coup, je balance. C'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre de partisans. Pas sûr qu'Olivier Dalloglio soit un fan d'Harry Potter, mais cette citation du professeur Lupin, que vous aurez tous reconnu, le coach Payadin l'a appliquée à la lettre hier soir. Alors que ses partisans, il y a quelques jours, se comptaient peut-être sur les doigts d'une main, en tout cas en dehors de Grammont, lui a répété à qui voulait l'entendre que son équipe était sur la bonne voie, celle de la réussite, donc en dépit de la défaite et du trou d'air au Serrois. Et en Bretagne, cette réussite, elle est enfin venue. 8 tirs cadrés, 7 buts et l'impression que le mauvais sort, enfin, a lâché notre 11 fétiche. Quelques jours auparavant, on disait en effet dans l'équipe que le temps était compté, qu'en coulisses, on cherchait à remplacer l'entraîneur en place. Le jour du match, une liste détaillée était même publiée par le quotidien sportif. De quoi donner l'impression que le changement, c'était maintenant. Et en effet, et quel changement ? Odéo est toujours à la baguette, mais ses sourcils ont bien changé, revigorés, premier sur les duels et second ballon. L'équipe semble métamorphosée dans l'envie, expressive sur chacun des 7 buts inscrits. On l'a souvent répété sur allezpayade.com ou ici sur cette antenne, jamais nos joueurs n'auront vraiment donné l'impression d'avoir lâché leur guide. Et à Brest, terre décidément bénie pour le MHSC où Olivier Dalloglio pourtant est maudit par ses anciens supporters, ils l'auront prouvé de la plus belle des manières. Et ce matin, l'équipe titrait son encart réconforté, évoquant une position consolidée pour coach Dalloglio après un succès aussi inattendu que spectaculaire. Un article diamétralement opposé, ou presque, avec celui de la veille et qui rappelle à quel point tout va vite dans le football. On prédisait à Olivier Dalloglio un funeste destin à tant vouloir s'entêter dans ses idées que le commandant Hérolté risquait même de couler avec le navire MHSC. Aujourd'hui, plus que jamais, le Cévenol continue de mener sa barque droit dans ses bottes car c'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre de partisans.
Pierrick de Maupassant.
Une plume.
La carte blanche de Pierrick ce soir. Donc, Pierrick, c'est quasiment... Est-ce que c'est une déclaration d'amour ? On est entre les deux.
Ouais, on est un petit peu entre les deux. C'est vrai que j'ai toujours défendu, alors autant que possible, parce que parfois c'était compliqué, mais j'ai toujours défendu le coach. Justement, voilà, c'est ce que j'essayais de retranscrire, mais pour ses idées, en fait, ses idées de vouloir jouer au foot, comme on dit, de proposer du jeu au-delà de cet esprit payadin qui doit pas nous lâcher, comme lui-même l'a dit après le match hier. C'est quelque chose qui, pour moi, l'esprit payad, c'est de facto qu'on doit l'avoir. Mais avec Olivier Dalloglio, ce que j'espère qu'il va réussir à mettre en place, comme il l'a fait sur la première partie de saison dernière, c'est cette envie de jouer au football, et comme ils l'ont montré hier, et de pas s'arrêter à 4, ni même à 5, ni même à 6-0, et d'avoir toujours cette envie d'aller de l'avant, de marquer toujours un but de plus, parce que c'est pas parce qu'on est à Montpellier à la Payade et qu'on a cet esprit payadin chevillé au corps qu'on n'a pas le droit aussi de voir du football offensif, du football entre guillemets moderne, avec ses ressorties de balles depuis la défense, etc. Je trouve que c'est important et que les joueurs adhèrent à ça.
Bon, très bien. Le message est passé. Raison, on n'a pas le temps d'en débattre ce soir, malheureusement. On essaiera de faire passer la carte blanche bien plus tôt les prochaines fois dans l'émission. Pierrick, bravo, vous avez ouvert le bal ce soir avec la carte blanche. De belle manière. Merci beaucoup. Je promets à Loïc et Maxime de les rappeler vendredi pour parler mercato. On fera le bilan de ce mercato. Il sera conclu, il sera terminé. Oui. Le marché des transferts, on les appellera. C'est promis, Loïc et Maxime. Désolé pour ce soir. Merci à Jean-Bernard Stern. Merci à Benjamin Psaume d'avoir été avec nous. Merci à tous pour vos appels. Catherine Nauroy à la réalisation de cette émission, les podcasts toute la semaine et toute l'année évidemment sur francebleu.fr et à mercredi soir.
Dans un instant, l'info est décibel. 100% payable.